c'est Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Et oui, One Step Beyond, chanté Madness il y a de cela quelques années. Oh, ça nous rajeunit pas. Et Cyril Guimard dansait comme un fou dans les booms à l'époque, dans les années 80. Et Luc aussi, non, dans les années 80, tu faisais quoi, toi? Tu t'entraînais à devenir coureur cycliste, donc tu sortais pas beaucoup
les
le soir. Hein.
Je
finissais de faire pipi au lit.
avant de mieux reprendre 30 ans plus tard. Non, dans les années 2010-2015.
80, j'avais 14 ans, donc voilà.
Très bien, 50 km de l'arrivée, les Madness sont toujours là et Fred Adam également pour le top course.
RMC Top Course.
50 km à parcourir sur cette étape prestigieuse certes, mais de transition dans son scénario. Deux coureurs échappés depuis le premier kilomètre, un Français, Jean-Marc Bidot de l'équipe bretonne Séché, et un Tchèque, Yann Barta de la formation d'étape Endura, deux néophytes du Tour de France et deux coureurs d'une équipe invitée par les organisateurs du Tour. 50 km tout rond avant l'arrivée sur The Mall en face de Buckingham Palace, en plein cœur de Londres, écart totalement stabilisé par le peloton. Un peloton emmené par les équipes de sprinteurs, les Lotto Bellisol d'André Greipel, mais aussi par, à l'instant, les Europcar. Allez savoir pourquoi, on en reparle dans quelques instants. 49 km 700 à parcourir, 2 minutes d'avance pour les deux échappés avant l'arrivée à Londres.
Et on a du retard, l'étape qui ne s'achèvera qu'aux alentours de 17h10, même peut-être 17h15 si ça n'accélère pas, mais évidemment personne, Cyril, n'a intérêt à ce que ça accélère, en tous les cas par les équipes de sprinteurs. Pour l'instant, ils les tiennent à distance à 2 minutes, et lorsqu'il sera temps de prendre les choses en main, ils les avaleront tout cru, hein, tout à l'heure.
Oui, cette échappée avec deux coureurs est le meilleur scénario pour les équipes de sprinteurs. D'autres attaques, ou du moins de contre-attaques derrière les deux hommes de tête. Donc le peloton se cale sur la vitesse des deux hommes de tête, c'est-à-dire à un petit 38-39 de moyenne, pas plus. Étape, j'ai presque envie de dire de transition, étape facile par rapport surtout à celle d'hier et celle du premier jour qui avait été très nerveuse. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais cela va s'exciter puisque nous arrivons maintenant au sprint intermédiaire. Et Frédéric faisait allusion tout à l'heure à la position, positions prises par les coureurs de l'équipe. Il faut savoir que le deuxième du classement par points, c'est tout simplement Brian Coquard, et que Coquard va essayer sur ce sprint bonification tout simplement d'aller chercher des points et peut-être de réduire le retard qu'il a sur le leader de ce classement, c'est-à-dire le grand Peter Sagan.
Le grand Peter Sagan, mais Marcel Kittel n'est pas là, n'est pas loin non plus. Celui qui remportera l'étape tout à l'heure, qui décrochera ce maillot vert. Tiens, la moto RMC justement, et alors pour l'instant elle est avec les échappés dans la forêt. C'est pas la forêt de Sherwood, hein, Georges, on l'a passé hier, là on se rapproche de Londres.
J'ai un peu du mal à vous entendre là actuellement, mais on est dans la traversée de Coopersale, de la forêt de Coopersale, où c'est une donnée de course, mais on vient de recevoir les premières gouttes de pluie de ce Tour de France. Il commence à pleuvoir sur la route du Tour. On a baissé les visières et on voit les premiers parapluies qui commencent à s'ouvrir sur le bord de la route. Les coureurs qui vont fermer bien leur maillot désormais. Ils sont à 2 km du sprint intermédiaire pour les deux hommes de tête. Et puis tiens, un élément de course également sur les suiveurs du Tour. On a vu le public s'enthousiasmer un petit peu tout à l'heure puisque est rentré dans une voiture invitée derrière les échappés. Une star ici en Grande-Bretagne, c'est Paul Smith, le couturier, le styliste qui a pris position dans une des voitures. Paul Smith qui fera partie des multiples VIP aujourd'hui dans cette étape, puisqu'on attend également, on a parlé de José Mourinho, le special one, l'entraîneur de Chelsea, qui devrait être du côté de l'arrivée.
Alors, on me dit qu'il est invité par Rui Costa, champion du monde, José Mourinho. C'est fort possible, hein. José Mourinho qui habite à Londres, puisqu'il est l'entraîneur de Chelsea.
Rui Costa, portugais, compatriote.
Exactement, champion du monde, et qui aujourd'hui, sans doute, ne sera pas aux avant-postes. Il est tranquillement installé dans le peloton avec tout le monde. L'approche du sprint, on va vivre ce sprint. Est-ce qu'il va y avoir bagarre, là?
Bien sûr, c'est le cas. C'est le cas à chaque fois sur le Tour. C'est une innovation d'il y a quelques années, de réduire le nombre de sprints intermédiaires, n'en mettre plus qu'un, plutôt bien placé d'ailleurs stratégiquement, afin que le peloton, même derrière une échappée aussi fournie soit-elle, que le peloton puisse aller grappiller des points et qu'il y ait un intérêt certain et non plus faux à ces sprints intermédiaires. Avant, il y en avait plusieurs qui attribuaient de petits points. Maintenant, il n'y en a qu'un sprint intermédiaire sur l'ensemble des étapes. mais elle apporte de gros points. Oh, pas autant que la victoire d'étape, bien sûr, que la ligne d'arrivée finale, mais c'est un élément qui tend et qui permet à redonner de l'intérêt à ce sprint intermédiaire. Ça a vraiment élevé l'intérêt de ce sprint intermédiaire, à tel point que l'on voit les équipes de sprinteurs se mettre en ordre de bataille à 2-3 km de ce sprint intermédiaire où passe à l'instant le duo de tête.
Voilà, le duo de tête.
Oui, alors pour votre information, il y a quand même 20 points au premier, 17, 15, 13, 11, 19.
Mais oui, ça fait pas mal de points quand même.
Alors que pour l'arrivée, qui en aura quand même beaucoup plus, il y a 45 points. Ouais. 45, 35, mais c'est presque 50%, donc c'est important.
Ouais, hein. Ouais, c'est
d'ailleurs, la plupart des points marqués par Coquart le sont sur ces sprints intermédiaires.
Voilà, alors Brian Coquart va-t-il réussir à grappiller des points? En tous les cas, son équipe de la formation Europcar est aux avant-postes, ainsi que la formation de Peter Sagan.
Oui, les Cannondale en ordre de bataille. Ils sont 7 à l'avant du peloton, avec sur leur droite les BMC de Greg Van Avermaet, et sur la gauche Yukiya Arashiro, l'ancien champion du Japon, le coureur de l'équipe Europcar, donc dans sa roue, qui a trois équipiers, dont Pierre Roland en deuxième position, Kevin Reza est là également, Brian Coquart en cinquième position derrière ses coéquipiers. Peter Sagan, lui, est parfaitement emmené par ses coéquipiers de la Cannondale. On est à quelques hectomètres du sprint, avec le champion de France Arnaud Démare qui va se mêler à la bataille également. Peter Sagan qui lance le sprint, mais il est débordé par Brian Coquart. Coquart qui se retourne avec dans sa roue Peter Sagan et Elia Viviani, un équipier de Sagan. C'est une nouvelle fois, comme lors des deux premières étapes, Brian Coquart, le néophyte de l'équipe Europcar, qui vient aligner Sagan, Viviani et Démare sur ce sprint intermédiaire. On est encore à un peu moins de 50 km de l'arrivée, mais Coquart a de bonnes jambes sur ce début de Tour de France.
Ah oui, il reprend deux points donc pour le classement du maillot vert à Peter Sagan, mais on peut remarquer quand même que Peter Sagan le fait uniquement pour assurer le minimum.
Bien sûr, en dedans, il a d'autres idées derrière la tête apparemment.
Mais on remarquera que Marcel Kittel n'a pas disputé ce sprint.
Comme lors des deux
ni
premiers
Greipel
jours.
Non plus.
Oui, mais Kittel n'a aucune chance d'aller chercher le maillot vert à Paris, donc on ne voit pas pourquoi il viendrait se battre.
Aucune chance c'est parce qu'il va perdre trop de.
Parce que le règlement a changé et parce que aujourd'hui, en 2014, on se bat et on gagne des points sur chaque sprint intermédiaire dans toutes les étapes. Et Peter Sagan est exactement le coureur capable d'aller chercher des points tous les jours en passant les difficultés, même dans les étapes de montagne.
Cyril, est-ce que Brian Coquart peut envisager justement d'aller chercher ce maillot vert? Est-ce qu'il peut être un adversaire sérieux pour Peter Sagan?
Oui, tout à fait, parce que il fait partie de ces sprinters qui arrivent à bien passer les difficultés moyennes. Et je pense qu'au fil des années, il s'améliorera encore, parce que il est encore tout neuf, ce petit Coquart, hein, il n'est pas encore fini. Hein. Et puis dans les arrivées au sprint, il va relativement vite, sauf que pour l'instant, et on le disait déjà tout à l'heure, la faiblesse de l'équipe Europcar dans le cadre des arrivées massives, c'est son incapacité ou son impossibilité plus exactement de pouvoir jouer à armes égales avec les grandes smalas des équipes de sprinters. Et Peter Sagan, lui, a l'équipe pour emmener sur le plat, et puis il aura aussi des équipiers pour lui permettre d'aller chercher dans la montagne. Mais je pense que Coquart est le coureur type comme Peter Sagan dans les années à venir pour aller chercher un maillot vert sur le Tour de France.
Eh ben, on l'espère évidemment. Brian Coquart, 22 ans, qui s'était révélé aux yeux du grand public il y a de cela 2 ans, ici même à Londres, sur le Vélodrome Olympique, que le peloton ne va pas tarder à percevoir. Ce sera aux environs de 25 derniers kilomètres. Brian Coquart, donc médaillé d'argent sur le Vélodrome Olympique il y a 2 ans dans l'épreuve de l'Omnium. Évidemment, pour lui, revenir à Londres, eh bien, ce ne sont que des bons souvenirs. On l'écoute.
Bah, c'est sûr que Londres, c'est des bons souvenirs, c'est mes meilleurs souvenirs de vélo pour l'instant, à l'heure actuelle, et sur le lieu des Jeux 2012, c'est sûr que j'aurais envie de faire quelque chose de bien. Je la vois souvent, la médaille, elle est au chaud chez moi, mais non, j'ai pas regardé ça. C'est pas comme si j'avais été au champion olympique sur la route à Londres. C'était au même endroit, mais c'était sur la piste, donc c'est des bons moments, mais bah, pour l'instant, ça restera gravé à vie en moi, mais c'est derrière moi.
Voilà, évidemment, une médaille olympique. Bon, c'est pas la médaille d'or, mais ça reste un énorme, un immense souvenir quand on est vice-champion.
Il a totalement basculé dans une carrière de routier. Il a été formé sur la piste. Après, il est venu sur le Vendéus à guérir à la route dans la couveuse de l'équipe de Jean-René Bernodeau. Cyril, c'est classique que l'on voit des pistards qui ont dédié le début de leur carrière à tourner en rond sur un anneau en bois ou en ciment, devenir complètement investi dans leur carrière de routier et vraiment aimer au plus haut point, aimer au plus profond d'eux-mêmes une carrière sur la route. Ce sont presque deux métiers différents pourtant.
Alors, il y en a un qui nous rejoint. Oui, tu poses une question à Cyril.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que la complémentarité entre la piste et la route est totale.
Ouais.
Et que seuls les sprinters ne viennent pas sur la route, à l'exception, il y en a quand même deux, c'était au Boss, et puis il y a quelques années, ça remonte quand même à une bonne trentaine d'années, c'était Patrick Sercu. Patrick Sercu qui avait été champion du monde du kilomètre et champion du monde de vitesse à l'époque de Daniel Morellon et Pierre Trentin, qui était venu sur la route avec d'ailleurs beaucoup de bonheur, puisqu'il avait eu des résultats plus que probants, entre autres sur le Tour d'Italie et y compris sur le Tour de France. Donc aujourd'hui ça n'est plus possible, la sprinter ne peut plus venir sur la route. Mais à partir du moment où on fait de l'omnium, c'est-à-dire de l'individuel, du classement par points,
l'omnium qui est le décathlon du cyclisme.
Voilà.
Sur piste.
Il est tout à fait logique de dériver ensuite sur la route et les exemples là sont énormes. Vous avez même des coureurs comme Ferdinand Braque qui ont été recordman de l'heure, entre autres sur piste, qui était champion du monde de poursuite. Ça a été vrai également pour Francis Moreau et bien d'autres. Logiquement, lorsque vous faites un début de carrière sur la piste en y alliant bien sûr la route, mais c'est obligatoire, par obligation vous devenez un très bon routier. N'oubliez pas, par exemple, que Greg LeMond a été vice-champion du monde de poursuite en junior et qu'il a gagné 3 Tours de France. Mmh. Donc la piste est l'école de la route.
Très bien. Pierre-Yves Leroux nous a rejoint parce que dès qu'on parle d'un coureur originaire de la région nantaise, évidemment, il est là. Dès qu'on parle d'un coureur Europcar, il est là.
C'est
évidemment,
c'est
l'attaché de presse
verte.
De la formation Europcar. C'est une mouche verte.
Vous les voyez,
Fred m'a fait bondir. J'ai entendu dire. Fred a dit il a totalement basculé sur la route.
C'est faux.
Et c'est faux.
Oui, il reste.
Parce qu'en fait, il a qu'une envie, c'est de refaire les JO.
Je parlais de l'expression qu'il avait dans son goût pour la route, son amour pour le métier de coureur cycliste sur la route.
Ouais, mais en fait, ça va être quelque chose de compliqué, d'ailleurs, à gérer, parce que Brian Coquart a envie de continuer sur la piste, a envie de refaire les JO. Il y a un autre garçon qui est très fort dans l'équipe qui s'appelle Thomas Bouda. Donc, il y a une possibilité
futur
aussi.
Futur professionnel chez Europcar. Il n'est pas encore pro, hein, il est chez Vendée U.
Et il y a une possibilité peut-être d'avoir une équipe très forte sur la piste de ce côté-là. Et Jean-René Bernodeau, son message, c'est très clairement, s'il a envie de refaire de la piste, il refera de la piste, quitte à ne pas être sur le Tour de France d'ailleurs cette année-là.
On en est où de ce projet d'une équipe Europcar piste? Il y a quelques années, Cofidis avait débloqué un budget pour avoir une équipe labellisée par l'Union Cycliste Internationale, une équipe piste. Je crois que c'est en train de prendre forme chez Europcar.
Exactement, parce qu'à partir du moment où il y a des garçons comme ça qui ont ces capacités-là, forcément, pourquoi ne pas aller créer une équipe véritablement consacrée à la piste.
Il y en a d'autres. Jérôme Cousin, par exemple, ouais, qui est un coureur d'Europcar, intégrera cette équipe-là, capable de switcher du team piste au team route.
Et puisqu'on parle de la piste et que nous sommes quand même sur les terres de Sir Bradley Wiggins, lui, il a aussi l'intention de repartir faire un peu de piste, non?
Oui, échéance Rio, échéance Mondiaux en 2015, échéance même jeu du Commonwealth à la fin du mois de juillet. Il n'a pas été sélectionné pour le Tour. Il a réintégré la British Academy, la fédération britannique, et en ce moment même, alors à l'heure où Froome, où Porte, où Geraint Thomas, ses équipiers de l'équipe Sky sont sur le Tour de France qu'il a remporté il y a 2 ans, eh bien Sir Bradley Wiggins tourne en rond sur le Vélodrome de Manchester.
Voilà, je voudrais faire une toute petite parenthèse. Hein, alors l'intention c'est bien, la réalisation ça sera peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il faudra trouver sa place pour les coureurs dans le cadre d'un calendrier, mais que l'ensemble des épreuves pour être qualifié aux Jeux Olympiques olympiques, c'est vrai également pour les championnats du monde, passe par des qualifications, ce qui veut dire que il faudrait peut-être faire beaucoup plus de pistes qu'on peut l'imaginer aujourd'hui pour pouvoir être dans les sélections.
Ok, et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas faire de la piste mais du VTT, c'est le cas de Jean-Christophe Perrault qui lui aussi a été sacré, pas champion olympique mais médaillé d'argent en VTT, c'était il y a quelques années maintenant, lors des Jeux de Pékin.
Lui pour le coup a bien laissé de côté le VTT.
Oui, mais il y a deux ans il avait disputé également l'épreuve olympique en sortant du Tour de France.
Sans grand succès.
Non, c'est évidemment pas facile. Allez, 39, un peu moins de 39 kilomètres à parcourir, un peu plus de 39 kilomètres à parcourir avant de s'interrompre quelques instants. On fait un nouveau point sur la course, le Top Course de Fred.
C'est Top Course.
La barre des 40 km à parcourir vient d'être franchie par le duo tête sur cette étape de transition, mais une étape prestigieuse arrivée devant Buckingham Palace en plein cœur de Londres. 39 km à parcourir et toujours ce duo tête composé du français Jean-Marc Bideau de l'équipe Bretagne Séchée et du tchèque Jan Bartha de la formation allemande NetApp Endura. L'avance qui est en train de fondre sous l'impulsion du peloton, l'avance des deux hommes de tête est maintenant d'1 minute 10. Ce sont toujours les équipes de sprinter, les Giant Shimano de Marcel Kittel, mais aussi les FDJ.fr d'Arnaud Démare qui conduisent le peloton. On aperçoit au loin les tours londoniennes et on entre bientôt dans le Great London, la banlieue de la capitale anglaise.
Merci Monsieur Adam, on se retrouve dans un instant, il est 16h20, vous êtes sur RMC. Le final de l'étape, c'est à suivre sur RMC dans l'intégral tour dans une petite minute. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
L'intégral tour qui continue évidemment à 16h23, encore quelques kilomètres et le Tour de France entrera dans London au terme de la troisième étape de ce Tour de France, troisième et dernière étape anglaise. Les tours de London sont en vue d'ailleurs pour le peloton qui ne va pas tarder à faire son entrée dans les rues de la ville en passant tout d'abord par le parc olympique. Je ne sais pas si on a retrouvé la moto RMC, oui me dit-on, on va donc aller retrouver Georges Quirino sur la moto RMC. Il nous annonçait tout à l'heure des petites gouttes de pluie. Londres, on s'en rapproche. Hein. En tous les cas, la tête de course s'en approche. Ça y est, on y est.
Exactement, ouais. La pluie s'est interrompue. On est dans la forêt de Woodford, là, juste avant l'entrée dans Londres. Et là, à l'instant même, eh bien voilà, l'avant-garde de la course. Donc les deux échappés, à savoir Jan Bartha et Jean-Marc Bideau, qui sont en train de rentrer dans Londres, dans le Grand Londres depuis quelques kilomètres maintenant. Et alors ça se voit parce qu'il y a une foule immense. Il y a des barrières là sur les bords de la route, à gauche et à droite. Et il y a des files de supporters sur des plusieurs mètres, c'est assez incroyable. Vraiment là c'est une marée humaine hein. On sent bien qu'on est arrivé dans Londres depuis quelques minutes. On était sur des grandes lignes droites très très larges. On a l'impression en fait, pour tout vous dire, d'être dans les 3-4 derniers kilomètres d'une étape, là où les supporters s'arrêtent pour voir le sprint final. Et ben là le sprint final on va peut-être l'avoir pendant 40 kilomètres, les 40 derniers kilomètres qui restent jusqu'à l'arrivée à Londres. Il y a plusieurs rangées de spectateurs avec Union Jack, le drapeau de la Grande-Bretagne à côté. Là il n'y a plus de barrière, ils peuvent venir le long de la route se rapprocher des coureurs. C'est vraiment assez impressionnant le spectacle que nous offrent les Britanniques pour la rentrée dans la capitale. On est passé devant l'échappée à l'instant parce que l'écart est passé sous la minute 30 entre l'échappée et le peloton. Donc les véhicules suiveurs sont désormais devant l'échappée pour ne pas perturber le retour du peloton.
D'accord, pas de danger aujourd'hui Georges. Est-ce que les spectateurs sont un peu plus disciplinés qu'hier hein? Tu le disais, les routes sont plus larges, mais on sait hier les coureurs étaient un petit peu inquiets hein, notamment après l'étape, ils étaient assez furieux même pour certains.
Non, là, c'est vrai qu'aujourd'hui c'était assez discipliné. Hier c'était vraiment dû à l'étroitesse de la route et du fait que ça peut pas être barriéré partout. Hein. Aujourd'hui on était sur des routes assez larges, les passages dans les communes étaient souvent barriérés et même quand ça ne l'est pas, les supporters britanniques sont quand même très disciplinés. Et là au moment où l'on rentre dans Londres, eh bien il y a énormément de mobiles, hein, la police britannique très nombreuse pour encadrer les supporters, les fans. Là c'est beaucoup barriéré au moment où où l'on est rentré dans le Grand Londres. C'est vrai que, comme je vous le disais, on se croirait dans le final d'une étape, tellement il y a du monde et tellement la sécurité maintenant semble avoir été réfléchie, parce qu'on a installé beaucoup de barrières dans l'entrée de Londres.
Très bien. D'ailleurs, pour illustrer la colère des coureurs sur le manque de sécurité hier, nous avons mis une vidéo sur le site rmcsport.fr où on voit notamment Navardauskas, le coureur de la formation Garmin, qui mettait des grands coups des grandes tartes sur les téléphones portables des spectateurs hier, Fred.
Oui, il y en a quelques-uns qui ont volé. D'ailleurs, ils ont été bien surpris de voir ce grand gaillard maillot Garmin Sharp sur les épaules, qui avait fait deuxième lors de la première étape derrière Marcel Kittel. Troisième exactement, pardon. Navardauskas, qui exaspéré et conscient, lui, des dangers que représentent ces spectateurs qui prennent des photos au dernier moment et se rendent compte presque après coup qu'ils sont dangereux pour les coureurs, et qui s'est mis effectivement à taper dans les mains ou sur les téléphones du public. Le grand problème, au-delà des prises de photos qu'on connaît depuis des années, maintenant, c'est la grande tendance. Vive les réseaux sociaux définitivement. J'en suis définitivement fan. Ce sont ces selfies qui mettent vraiment le peloton en danger. Pourquoi ? Parce qu'un selfie, par définition, on tourne le dos au peloton qui vient et on ne voit rien. En plus d'avoir la vision du peloton, c'est pire que ça, on n'a pas la vision du peloton dans le téléphone, on n'a aucune vision du peloton puisqu'on est occupé à tourner le dos au peloton pour se prendre soi-même en selfie. Arrêtez de faire n'importe quoi, il y a des vies qui sont en jeu, il y a des coureurs cyclistes qui sont sur leur machine. S'il vous plaît, n'imitez pas le public anglais dans les étapes qui viennent en France.
Oh oui, mais les selfies, ce n'est pas seulement britannique, on va sans doute en trouver également sur les étapes françaises. Puis tiens, il y en a un hier qui a pris un râteau. Alors, il était ravi de porter une belle tunique jaune, c'est Vincenzo Nibali.
Oui.
Mais sur le podium, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Luc, mais il s'est pris un râteau par l'une des hôtesses qui n'a pas voulu lui faire de
pas
plus.
Un râteau.
Qui a pas voulu lui faire un petit bisou quand même, c'est pas sympa ça.
Ah oui, non, il était hors protocole.
À mon avis, l'hôtesse, elle va pas remonter sur le podium alors.
Si, c'est une fidèle, c'est une indéboulonnable du protocole.
Mais alors pourquoi elle a pas voulu lui faire un bisou?
Non, c'était hors protocole, on va dire. C'était pas encore l'heure de la bille, c'est très réglé, c'est très minuté sur le podium.
On serait pas sur les concierges là? Pardon?
Un peu, c'est vrai.
On serait pas sur les concierges?
Les concierges? Quel concierge? De quel concierge tu parles? Ah, les pia-pia-pia, il aime pas ça, Cyril. Lui, il veut être concentré sur la course, c'est impur.
Il est pas très hôtesse.
Il est pas très hôtesse, mais non, ça fait un moment qu'ils lui font plus la bise, les hôtesses, malheureusement.
Il est plutôt
Bobbies. Il fait la bise aux Bobbies. Tiens, question sur le compte Twitter d'RMC, sur le hashtag RMC Live, question de Anto SNL qui nous dit: est-ce que Romain Bardet peut espérer un top 5 sur ce tour, car je le trouve vraiment en forme ces derniers temps? Alors je sais que c'est un des coureurs favoris de Luc. Luc, qu'est-ce que tu en dis toi?
On sait jamais, Romain, il est bien partout, donc il est complet, c'est un coureur très complet, il va bien au chrono, il va bien en montagne, il a prouvé sur le Dauphiné Libéré, pourquoi pas. Je crois qu'il a assez de maturité aujourd'hui pour jouer les premiers rôles sur ce Tour de France. Ça peut être l'une des grosses surprises du Tour, et de voir un Français tel que Romain Bardet rentrer dans le top 5, ça serait vraiment formidable. Oui, moi j'y crois.
J'y crois.
Oui, d'accord. Il a les qualités.
Ouais. D'accord. Cyril, Romain Bardet.
Je partage, alors qu'il y a une chute actuellement.
Oui. C'est en échec.
Ça commence mal pour lui.
Il avait déjà lâché du temps hier sur l'étape. Il souffrait de crampes à la fin de la deuxième étape hier à Sheffield. Et il vient d'aller tâter du bitume. Il devrait repartir assez rapidement. Le vainqueur du Tour de France 2010.
Bonjour les pavés dans deux jours.
Hein. Sur tapis vert.
Oui, c'est plus vraiment le.
Ça a tapé un spectateur.
Il a tapé un spectateur.
C'est peut-être pas lui qui a tapé le spectateur.
Ce qui devait arriver arriva. On ne le répétera jamais assez. Vigilance sur le bord des routes. Il y a désormais 196 coureurs en lice. Imaginez-vous la taille du peloton et la vitesse surtout. Vigilance, ne faites pas n'importe quoi. N'amenez pas forcément les chiens. Ne lâchez pas les enfants à l'approche de l'arrivée des coureurs. Le maximum de précautions. Et n'oubliez pas papy-mamie dans leur fauteuil sur les bords de route.
Voilà, parce qu'hier, il y en a certains qui ont failli voltiger, des papy-mamies dans leur fauteuil, ils ont failli prendre. Oui.
Ils n'ont pas l'habitude. Marrer, toi. Ils n'ont pas l'habitude.
On parlait de Romain Bardet et de ses chansons.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Lucho, ce qui arrive quand même de temps en temps.
Ben heureusement.
Et il suffit tout simplement de regarder les 20 qui sont arrivés ou les 21 qui sont arrivés devant hier pour savoir que ce sont les coureurs que l'on va retrouver, non pas dans les 20 premiers parce qu'un certain nombre vont sauter, d'autres risquent d'abandonner ou d'être malades, mais ça veut dire que Bardet fait partie du groupe des 20 meilleurs et c'est vrai qu'à lui de prouver, à lui de prouver qu'il peut venir dans le top 5.
Alors 20 meilleurs, c'est bien, 5 meilleurs, tu y crois Cyril, dès cette année?
Vous savez, sur un Tour de France, quand on est dans le groupe des 20, parce que hier les écarts sont pas importants, mais sur les enseignements qu'il faut tirer d'hier, on a devant les 20 meilleurs.
Alors il y a une autre question posée par Sheka, pareil sur le hashtag RMC Live, qui nous dit Nibali vise la victoire finale, se relever sur la ligne comme il l'a fait hier, est-ce que ce serait pas une erreur? S'il perd le Tour pour 3 secondes, il pourrait s'en vouloir. Cyril.
Oui, effectivement, c'est, vous savez bien, vous qui m'accompagnez ou moi qui vous accompagne depuis quelques années sur le Tour, on doit aller jusqu'à la ligne. On ne sait jamais effectivement de quoi l'avenir sera fait, et une seconde c'est toujours une seconde. Ceci dit, je ne pense pas
que ça va se jouer,
ça se jouera à une seconde près.
C'est clair.
Entre 2 et 3 secondes.
Qui sait. Et le cœur, mon cher druide, Vincenzo Nibali qui remporte sa première étape sur un Tour de France, qu'il savoure et qu'il soit un peu démonstratif dans les 50 derniers mètres de l'étape, c'est quand même largement compréhensible.
Frédéric, c'est votre côté sentimental, comme Lucho. Sauf que la course a des règles.
Il n'aime pas le panache, le druide.
Non, ne parlez pas du panache, vous le savez très bien. Vous savez ce que je pense du panache.
Mais on aime bien te l'entendre dire année après année, panache.
Non, mais là, je suis d'accord avec Cyril, c'est vrai qu'il n'aurait pas dû se relever.
D'accord. Ben moi, je dis qu'il a eu raison d'en profiter, qu'on ne vit qu'une fois.
Mais il peut le faire après la ligne.
Mais oui,
attends, un sprinter, vous savez, j'en ai vu qu'il levait les bras des sprinters.
Hein, deux secondes de grappiller,
et il se faisait ajuster sur la ligne. Ah, ils avaient savouré.
Je pense qu'il est vraiment allé au bout de lui-même de toute façon, hein, et que quand il s'est relevé, il n'était pas capable d'aller beaucoup beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle il a franchi la ligne.
Il suffit d'accompagner.
Vent défavorable sur le final de l'étape, il l'a bien mentionné.
Bah justement, on se relève pas parce que vous avez plus de prise au vent, mon cher Frédéric.
Okay.
Donc, le ralentissement est encore plus important.
C'est bon, on passe. On
très bien.
Frédéric, il va avoir raison sur ces choses-là.
Ah non, mais déjà, il vous a battu au quiz, les gars. Donc,
juste une chose à propos de Nibali. Je parle de son enthousiasme, mais de sa joie de remporter l'étape. On parlait tout à l'heure du courrier qu'avait reçu Vincenzo Nibali et tous ses équipiers de la formation Astana au cours du mois de juin, parce que Alexandre Vinokourov, le manager, celui qui était coureur cycliste, le manager de la formation kazakh, avait envoyé courant juin un courrier de remontrance, un rappel à l'ordre à l'ensemble des coureurs de l'équipe Astana pour manque, peut-être pas de résultats, mais manque d'application. Ça avait fait un petit tollé, un petit scandale en Italie. La Gazzetta dello Sport, le quotidien sportif, avait publié la lettre d'Alexandre Vinokourov. Et comme dimanche dernier, lors de son titre de champion d'Italie, Vincenzo Nibali a tenu à manifester sa joie et à montrer que oui, il fallait compter sur lui.
26 km 700 de l'arrivée, le point rapide de la course, Fred.
Deux coureurs à l'avant avec un Français, Jean-Marc Bidot de l'équipe bretonne Séché, le Tchèque Yann Barta pour la formation d'étape Endura. Dernier pointage à 26 km 500 de l'arrivée face à Buckingham Palace ici à Londres. 2 minutes pour un peloton qui gère parfaitement la situation. Tout est sous contrôle pour une arrivée massive.
Allez, on se retrouve dans un instant. Le groupe de tête, les deux hommes de tête qui arrivent dans le parc olympique de Londres, là où il y a 2 ans s'étaient déroulés les Jeux Olympiques. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Eh oui, satisfaction pour toute l'Angleterre et ce Tour de France qui va donc dans maintenant un peu plus de 22 km dire adieu aux routes anglaises avant de rallier la France. Tiens, avant de faire un top course, petite carte postale avec Georges Quirinos qui se trouve à l'avant de la course qui se trouve dans le parc olympique. Georges, ça nous rappelle des souvenirs.
Eh ouais Christophe, ça nous rappelle des bons souvenirs effectivement. Il y a 2 ans, lors des Jeux Olympiques de Londres 2012, on est dans le quartier de Stratford et l'on vient de passer pour les deux hommes de tête, Jean-Marc Bidot et Yann Bartra, dans le parc olympique avec cette tour gigantesque en fer rouge et toute torsadée comme ça ressemble à une espèce de tour Eiffel, c'est ce qu'ils nous avaient dit les Britanniques, ça y ressemble pas vraiment, mais une longue tour énorme. On est passé à côté du vélodrome également qui était sur notre gauche, ce vélodrome où Brian Cocard avait eu sa médaille d'argent sur l'Omnium, sur la piste, le parc olympique qui a un petit peu changé hein, quand même hein, là, on a réduit la capacité de la piscine notamment. Il reste encore les terrains de hand et de basket, mais il y a beaucoup de sites qui étaient temporaires et qui ont donc disparu, mais les gros sites, la natation, le stade olympique et le vélodrome sont toujours en place. Et je peux te dire que eh bien, c'était l'un des spots choisis par beaucoup de fans parce qu'ils étaient très nombreux, les supporters britanniques, alors que l'on vient de passer à l'instant, vient de sortir de ce parc olympique. Les supporters britanniques très nombreux sur plusieurs rangées, ils étaient plusieurs milliers à l'instant, eh bien, pour encourager les coureurs du Tour de France dans le parc olympique, la plus grande fierté britannique certainement avec les Jeux d'il y a 2 ans et le Tour cette année. Ils sont au rendez-vous les Britanniques de cette fête à l'instant, mais c'est vrai que ça rappelait de bons souvenirs Christophe de passer dans ce vélodrome il y a quelques ans.
Ah là, on est même passé devant l'International Broadcast Center où on avait planté nos tentes pendant 3 semaines Georges. Allez, 21 km de l'arrivée, Fred, on fait un point de la course, les deux hommes de tête qui continuent d'avoir une bonne petite avance malgré tout hein.
Oui, on est
le top course, oui, tiens.
Allez,
c'est parti, top course.
Soyons fous, 21 km de l'arrivée, effectivement, les deux hommes de tête échappés depuis le premier kilomètre de cette troisième étape du Tour, arrivés en plein cœur de Londres sur The Mall en face de Buckingham Palace, peut-être sous les yeux de la reine herself, de la reine elle-même. Deux hommes en tête, le Tchèque Yann Bartra de l'équipe NetApp Endura et Jean-Marc Bidot, le coureur français de la formation Bretagne Séchée. Ces deux-là comptent 1 minute 35 au dernier pointage sur un peloton qui, attention, dans le Greater London, la banlieue londonienne, a sévèrement accéléré. On vient de voir arriver en tête de la course, en tête du peloton, les coéquipiers de Marcel Kittel, les coureurs de la formation Giant Shimano, relayés à l'avant du peloton par les Lotto Bellisol de André Greipel. On aperçoit également les Omega Pharma pour Marc Renshaw. Attention, les Trek sont là également. Et attention aux spectateurs, car on voit des scènes ahurissantes. Le danger est partout dans ce final d'étape.
Oui, on a vu notamment tout à l'heure un spectateur se faire heurter par un cycliste. Il était évidemment en train de prendre une photo et il était avancé
continuez,
au milieu de la route.
Continuez à prendre des photos.
C'est ce qui a provoqué la chute d'Andy Schleck.
Exactement,
hein.
C'est ce qui a provoqué Andy Schleck qui se trouvait un petit peu derrière et qui n'a pas pu éviter la gamelle tout à l'heure. C'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu Pro Cycling Manager, simulation officielle du Tour de France sur PC, le jeu de société L'échappée infernale, le livre Jour de fête, la grande histoire du Tour de France aux éditions Chroniques et surtout 2 places VIP pour assister dans les meilleures conditions à l'arrivée du Tour sur les champs pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau. Appelé le 32-16 touche 6 ou envoyez RMC par SMS au 7-32-16. Bonne chance. Il y a plein de questions sur le hashtag RMC Live, notamment cette question posée à Lucho de Dart Yaya qui nous dit: est-ce que Lucho, qui est proche du maire de Limoges, va faire venir le Tour à Limoges? Hein, c'est ton boulot, tu as été mandaté par la mairie pour faire venir le Tour à Limoges.
Mais écoutez, monsieur Lamberti, fraîchement élu à la mairie de Limoges, que je salue d'ailleurs, je salue Limoges parce qu'ils sont partenaires de... J'organise les 20 ans de mon titre de champion du monde à Saint-Hergué-la-Perche.
Exactement.
On aura l'occasion d'en parler, dont Daniel Boissery est le député maire. Et donc monsieur Lamberti, ben, bien sûr, il adore le sport. D'ailleurs, il a plein de projets pour le sport à Limoges, à la ville de Limoges. Et donc oui, on est en train d'en parler.
Très bien. La moto RMC, tout de suite à l'avant de la course, avec la pluie qui s'abat désormais sur le peloton, Georges.
Ouais. Exactement, les données de course eh bien, qui vont se compliquer un petit peu au moment où on est rentré vraiment dans Londres, de plus en plus la pluie qui a refait son apparition sur la route, la chaussée qui est complètement trempée là, hein, sous nos roues. Il a dû bien pleuvoir il y a quelques instants, ça va rajouter des dangers parce qu'on est en plus dans un décor urbain désormais avec ses terre-pleins centraux et ses panneaux de signalisation eh bien, qui se justifient, enfin qui sont de plus en plus nombreux au milieu de la route. On est sur des routes très larges mais ça donne de plus en plus de dangers, le public de plus en plus nombreux, les terre-pleins matin sans trop, la pluie, la chaussée qui devient humide, le vent qui souffle également énormément là, de notre côté gauche, même si on est à l'abri au milieu des maisons pour la plupart du temps. Mais ça va peut-être corser encore un petit peu plus le final de cette troisième étape.
Et oui, attention à la pluie, Cyril le disait tout à l'heure, hein, ça peut...
Cyril le souhaitait presque, oui, il souhaitait presque l'arrivée de la pluie.
C'est dommage qu'il pleuve pas, il est sadique. Yeah,
c'est ambitieux, c'est ambitieux.
C'est un drôle de...
Vrai ou faux, Cyril?
Là, je vais me faire allumer.
Vrai ou faux?
Je disais, pour être très précis, que lorsqu'il pleut sur un final tel que celui que nous avons aujourd'hui, cela pouvait faire énormément de dégâts, provoquer des cassures, voire même piéger des favoris. Et puisqu'il se met à pleuvoir, rien ne dit, l'avance étant de 1 minute 24 pour les hommes de tête, que cette pluie risque peut-être de les avantager.
Vu la physionomie de l'avant du peloton à 18 km de l'arrivée maintenant, ça risque d'être très compliqué pour Jean-Marc Bidot et Yann
Barthin. Une ou deux gamelles en tête de peloton et c'est possible d'aller au bout.
C'est bien pour cela que les Astana sont en train de prendre le commandement du peloton avec Vincenzo Nibali en troisième position. L'étape est toute plate, l'étape est dangereuse avec cette pluie qui commence à tomber sur Londres. Et effectivement, les favoris sont aux avant-postes avec Alberto Contador, avec Christopher Froome, les Tinkoff, les Sky, mais aussi donc les Astana du maillot jaune Vincenzo Nibali sont en train de prendre les commandements. On a aperçu les Trek également. Peut-être que Cancellara prépare quelque chose.
Oui, moi je serais d'avis, je serais le directeur sportif de l'équipe Astana, je leur dirais d'arrêter de rouler, puisqu'on arrive maintenant à 17 km de l'arrivée, que les équipes de sprinteurs pour le moment sont complètement au chaud et qu'ils devraient prendre le relais pour
la sprinteur. Ils veulent positionner Nibali à l'avant pour éviter les chutes.
Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas que l'équipe Astana peut protéger Nibali dans la roue des équipes de sprinteurs.
Ouais, mais quand on a la responsabilité du maillot jaune, Cyril, c'est une vraie responsabilité. On est obligé de rouler et de défendre.
Oui, mais jusqu'à un certain point.
Oui, mais c'est, quand vous avez le maillot jaune, il vaut mieux rester dans les premières positions, parce que même si vous êtes dans la roue des sprinteurs, ça fait quand même 25 coureurs qui sont devant vous, et ça fait 25 coureurs qui peuvent tomber, soit individuellement ou collectivement. Mais on parlait de Cancellara tout à l'heure. Il faut savoir quand même que dans l'équipe de Cancellara, il y a un jeune coureur qui va très très vite et dont il faudra se méfier. Oui. C'est Danny Van Poppel, qui est peut-être d'ailleurs le coureur, peut-être l'un des coureurs, sinon le coureur le plus jeune de ce Tour de France.
C'est le plus jeune, ouais, absolument.
Benjamin, voilà. Exactement. Georges sur la moto RMC, toujours à l'avant de la course avec les deux hommes de tête qui continuent d'y croire et qui continuent de pousser et de donner tout ce qu'ils ont dans les jambes encore pour tenter de rallier l'arrivée en tête. Hein.
Oui, Jean-Marc Bidot, les mains en bas du guidon, concentré pour eh bien essayer d'aller le plus loin possible. Et la pluie qui s'intensifie là, Christophe, sur le final de cette étape. C'était quelques petites gouttes il y a quelques instants là. On a franchement sorti les parapluies sur les bords de la route et la pluie de plus en plus importante. La chaussée est complète.
Oui,
ciel qui s'assombrit complètement et notre visibilité aussi. Parce qu'on a même allumé les phares du côté des suiveurs et des voitures du Tour de France pour l'instant. C'est vous dire, eh bien, le décor un peu apocalyptique, quand on va pas exagérer non plus. Mais c'est presque ça, là, depuis que l'on est rentré dans Londres. Vraiment, les conditions qui se sont détériorées sérieusement et les deux hommes de tête, eh bien, qui continuent de croire en leur chance pour l'instant. Le peloton ne les a pas en vue. Enfin, en tout cas, il ne les a jamais eu en vue dans le final de cette étape.
Très bien. On a enfin l'impression d'être en Angleterre aujourd'hui. Un peu de pluie, l'arrivée dans Londres, les couleurs un peu plus sombres. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait été gâtés par la météo. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et les coureurs, évidemment, sont très inquiets. Fred a
beaucoup de pluie. Hein.
Un peu plus de 15 km de l'arrivée.
Ah oui, beaucoup de pluie. Ça tombe dru sur la banlieue londonienne. On est à un peu plus de 15 km de l'arrivée pour la tête de course composée, on le rappelle, du longiligne coureur français Jean-Marc Bidot de l'équipe Bretagne Séchée et d'un tchèque Yann Barthin de l'équipe NetApp Endura. Ils font de la résistance pour l'instant, mais que ce sera dur de contrôler le retour du peloton. 1 minute 10 sous des cordes, le peloton emmené cette fois par Lars Bak, le danois de l'équipe Lotto Bellisol, avec dans sa roue 4 coureurs de l'équipe Astana, le maillot jaune de Vincenzo Nibali est en 9e position avec dans sa roue le maillot de champion du monde de Rui Costa. Contador et Froome ne sont pas loin, les sprinteurs également au deuxième rideau à 15 km de l'arrivée.
Avec notamment Arnaud Démare, le champion de France, et son beau maillot bleu-blanc-rouge. 14 km 900 de l'arrivée, 1,08 d'avance pour les deux hommes de tête. Vont-ils réussir à garder quelques centimètres d'avance sur la ligne d'arrivée ici à Londres? On le saura dans quelques instants. L'intégral tour revient dans une minute. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour. Plomb. RMC Intégral Tour. Christophe
Sessieux. 13 kilomètres de l'arrivée, les 13 derniers kilomètres du Tour de France ici en Angleterre. L'arrivée à Londres sous la pluie, une grosse pluie qui s'abat à l'instant même sur le peloton. 12 km 500 de l'arrivée. On fait un nouveau point avec Fred. C'était les super trempes qu'on entendait. It's raining again.
Eh oui.
RMC Top Course.
It's raining again and it's raining hard. Il pleut très fort sur la fin de cette troisième étape avec l'arrivée jugée tout à l'heure sur The Mall en face de Buckingham Palace en plein cœur de Londres. 12 kilomètres de l'arrivée pour deux hommes en tête pour qui ça devient de plus en plus dur. Le Tchèque Yann Barta attend son compagnon d'échappée, le Français Jean-Marc Bidot de l'équipe Bretagne Séchée. Il ne compte plus, c'est de là à 12 kilomètres de l'arrivée que 50 secondes d'avance sur le peloton et sous la pluie, le peloton toujours emmené par les équipes de sprinteurs. A priori, c'est une arrivée massive qui se dessine ici sur The Mall, sous les yeux de la reine peut-être.
Ah, on ne sait pas, sous les yeux, mais en tous les cas sous la pluie. Georges Quirino et Marc Comple, le motard de la moto RMC, sont également sous la pluie, messieurs. Ça tombe dru sur la route du Tour.
Ouais, ça s'était un peu calmé il y a quelques instants, ça commence à reprendre sérieusement là, il pleut des cordes sur la route du Tour de France alors que l'on rentre de plus en plus franchement dans Londres. Les coureurs Jean-Marc Bidot et Yann Bartra, les deux hommes de tête qui ont toujours cette avance sur le peloton qui ne les a pas en ligne de mire. On vient de passer à l'instant juste à côté de l'O2 Arena, cette plus grande salle de concert d'Europe, là où avaient lieu les épreuves de basket lors des Jeux Olympiques, et la chaussée qui est complètement trempée. On est maintenant sur des routes quand même très larges depuis que l'on est rentré dans Londres, des routes très larges mais trempées, et alors que l'on arrive à l'instant devant les grandes tours qui nous indiquent eh bien l'entrée dans la City, dans le quartier financier de la ville de Londres, avec deux panneaux gigantesques face à nous sur un pont routier avec une photo. Deux photos de coureurs de l'équipe Sky, c'est Christopher Froome à gauche et à droite le long de la route. Go Team Sky, peut-on lire sur les deux grands écrans à l'entrée de la City. Qui arrive maintenant derrière nous, devancé par les motos suiveuses qui ont allumé les phares, tout comme les voitures. Décor obscur, il fait nuit, ou presque, sur cette arrivée de la troisième étape du Tour de France.
Voilà, je ne sais pas s'il pleut encore ici sur la ligne d'arrivée, Fred.
J'ai l'impression. Ça continue à tomber.
Ça continue à tomber. Cyril, Lucho, il reste un peu plus de 10 km à parcourir. 36 secondes, ça s'annonce compliqué pour les deux hommes. Lucho.
Ah, ben oui, c'est compliqué. Maintenant, c'est foutu. Hein. Il reste 10 km. Avec toutes les équipes de sprinteurs qui ont mis en route derrière, c'est mission impossible pour les deux hommes de tête qui ont fait une très très belle étape.
Ouais, leur seul espoir, Cyril, c'est évidemment que la pluie cause des soucis au peloton avec des chutes, mais pour l'instant on est épargné par les chutes une nouvelle fois, même sous la pluie aujourd'hui. Hein.
Attends.
On n'est pas encore, ouais. Il reste encore un peu plus de 11 km pour le peloton. Ouais. Oui, on a pu remarquer qu'entre les 15 derniers kilomètres et les 13 derniers kilomètres où il y avait beaucoup de virages et de ronds-points, les deux hommes de tête n'ont perdu que quelques secondes. Et là on est revenu maintenant sur des longs boulevards en ligne droite. On va même passer d'ailleurs sous des tunnels. Il y a sur ces grandes lignes droites, effectivement, les deux hommes n'ont aucune chance, ouais, de résister au peloton.
Les 10 derniers kilomètres de cette troisième étape du Tour de France.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
10 kilomètres encore à parcourir dans les rues de Londres pour l'arrivée ici sur The Mall qui nous amène à Buckingham Palace. La reine d'Angleterre est-elle à la fenêtre pour observer les coureurs, les 196 coureurs de ce Tour de France? On ne le saura probablement jamais. En tous les cas, Fred, l'avance continue de décroître pour les deux hommes de tête. Elle ne se compte plus qu'en quelques secondes maintenant.
Oui, 25 secondes, dernier pointage à 9 km 500 de l'arrivée, avec en serre-fil dernière position du peloton, toujours le même, Thomas Vauclair, maillot Europe Car sur le dos, et devant ceux qui jouent le général et ceux qui sont à l'affût de la moindre ouverture ou qui sont en train de redouter une chute. On a vu une image saisissante d'Alberto Contador en deuxième position à l'avant du peloton, la gueule grande ouverte, la bouche qui essayait de prendre de l'oxygène et surtout eh bien d'éviter les gouttes de pluie qui tombent. On est en train de d'assister à une scène de classique avec Sylvain Chavanel par exemple, qui adore ces conditions, le froid, la pluie, les routes glissantes parfois, qui vient se positionner à l'avant. Pour l'instant, le peloton est emmené par les Lotto Bellisol et par les Giant Shimano. Ce sont les équipes respectivement d'André Greipel et de Marcel Kittel, les deux sprinteurs allemands qui ont le profil pour s'imposer ici devant Buckingham Palace avec pourquoi pas un outsider qui s'appelle Arnaud Démare, le champion de France.
Voilà, et puis le peloton arrivera un petit peu plus tard au pied de Big Ben avec un virage serré sur la droite, un autre virage pour avant de se présenter sur The Mall, disent les Anglais.
Oui, on s'est renseigné pour de bon.
Le Mall, allez, le Mall, il est là à l'avant de la course. C'est sur la moto RMC qu'il se trouve, le Mall d'RMC Sport, Georges Quirino.
Ouais, la pluie qui vient de s'arrêter là, alors qu'on est passé sous le tunnel qui passe en dessous de la City, du poumon financier. La pluie qui s'est arrêtée, mais la chaussée qui est toujours trempée. Alors, on est sur des routes très larges, hein, évidemment, dans l'ombre désormais, où il y a toujours autant de spectateurs sur la gauche et à droite de la route. Il y a plein d'écoliers, vous devez les entendre.
Ça bouge, Georges.
À l'instant même, en train de crier au passage des coureurs dans quelques instants. On a des scènes assez marrantes quand même. On est passé dans le quartier de la City, Christophe, où il y avait eh bien tous les employés qui travaillent dans les banques ou à la bourse. Ils étaient tous trempés, tu sais, en chemise blanche ou en chemise bleu clair, tous trempés. C'était une scène assez marrante, effectivement, lorsque l'on est passé à ce moment-là, tous les supporters en chemise. Donc au moment eh bien où les coureurs sont sortis de ce tunnel, donc à l'instant il y avait même du monde dans le tunnel, donc vraiment des scènes de liesse, alors que l'on est franchement rentré dans l'ombre désormais.
Ça bouge à l'avant avec Yann Barthes qui avait attendu une fois, deux fois son compagnon d'échappée Jean-Marc Bidault, un peu court dans le final de cette troisième étape du Tour. Cette fois Jean-Marc Bidault s'est relevé, laissant le Tchèque de l'équipe allemande NetApp Endura en terminer. Le Tchèque qui a été plusieurs fois champion de son pays dans la discipline du contre-la-montre et qui se lance dans un solo à moins de 8 km de l'arrivée. Maintenant 12 secondes, dernier pointage en faveur du Tchèque qui fait de la résistance. Derrière, Bidault de l'équipe bretonne séchée a été irrémédiablement et sans pitié avalé par l'avant-garde du peloton. Un peloton toujours emmené par les Saxo Tinkoff d'Alberto Contador. Contador en deuxième position. Quelle image au sortir de la City en plein cœur de Londres, dans la roue de son équipier Nicolas Roche. Derrière, les équipes de sprinteurs se succèdent, mais c'est bel et bien pour l'instant, et c'est le cas depuis le départ de ce Tour 2014, c'est bel et bien Contador qui court devant sur des étapes où il faut redoubler de vigilance.
Et oui, ne surtout pas se faire prendre au piège par une chute qui pourrait intervenir en milieu de peloton ou même dans les 10 premières places de ce peloton. Alberto Contador, dans la roue de l'un de ses équipiers, veut éviter tout risque, et la plupart des autres leaders sont également dans le même cas. Il est 17h sur RMC, les infos vous les retrouverez tout à l'heure à 18h, mais nous sommes maintenant dans le final de cette étape à moins de 7 km de l'arrivée. Georges, une dernière carte postale avant de rallier l'arrivée. Dernière carte postale, est-ce qu'il peut toujours sur la route du Tour?
Ouais, il s'est remis à pleuvoir alors qu'on est juste à côté de Tower Bridge désormais. On voit désormais l'avant-garde du peloton qui prend toute la largeur de la route derrière nous. Au moment où à notre gauche, Tower Bridge se présente à nous. La chaussée de plus en plus trempée, les parapluies qui sont sortis et l'avant-garde du peloton qui est désormais bien visible derrière Yann Barthes.
Ok, Barta qui fait de la résistance, Cyril, mais là c'est de la résistance vaine, hein, parce que derrière ça revient irrémédiablement.
Oui, les carottes sont cuites, il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien de compliqué. C'est une histoire de quelques encablures, de quelques secondes pour qu'il soit rejoint. Il fait de la résistance, mais c'est une vaine résistance.
Heureusement
que le final de cette étape est relativement rectiligne, avec les coureurs qui vont longer la Tamise via l'embankment avant un dernier virage à droite pour se diriger vers St James Park et Buckingham Palace. Heureusement, car la route est totalement détrempée. Alberto Contador est toujours en deuxième position. Le peloton est groupé cette fois. On est à moins de 6 km de l'arrivée. C'est Matteo Tosato, l'italien, qui emmène dans sa roue Alberto Contador. Derrière, on aperçoit les Katyusha pour le sprinter norvégien Alexander Kristoff. Et ça glisse. Kristoff qui vient de déchausser sa pédale pédale gauche.
C'est dangereux.
Et heureusement, encore une fois, que les derniers hectomètres sont rectilignes. Attention tout de même à ce demi-tour.
Il y a l'avantage, il va falloir passer le panneau des 3 km. Et je pense que Contador cherche à aller chercher ce panneau des 3 km qui fait que les temps ne sont plus décomptés sur la ligne en cas d'incident.
En cas de chute ou en cas d'incident mécanique, on est encore à 5 km 300 de l'arrivée.
Contador, hein. Étonnant, Cyril, quand même, cette image de Contador. Il ne me semble pas me rappeler l'avoir vu comme ça dans les étapes de sprint aussi bien placé. Évidemment, il veut éviter la chute. C'est son professionnalisme là qui montre aujourd'hui. Mais c'est étonnant de le voir comme ça, non?
Professionnalisme ou la peur, parce qu'à ce niveau-là, ils sont tous professionnels. Après, on fait avec ses moyens. Mais c'est vrai qu'il veut prendre le moins de risques possible. Mais vous avez vu qu'il s'entame quand même. Il s'entame parce qu'il a pas une belle gueule quand même sur ce
final. Mais vous savez, vous, les anciens coureurs,
sous la pluie,
on a davantage tendance à ouvrir la bouche. C'est un réflexe très naturel qui ne s'explique pas forcément, mais quand il pleut, les bouches s'ouvrent très naturellement.
Eh oui, on cherche un peu d'eau à boire. Il fait chaud. Non, il fait pas très chaud. 4 500 km de l'arrivée. Fred, peloton désormais groupé, puisque le dernier résistant, Barta, s'est fait avaler lui aussi à son tour par le peloton. Désormais, les équipes de sprinteurs vont prendre la direction des opérations. Kittel, Démare, Greipel, Cocard ou pourquoi pas un autre. Faites vos jeux, messieurs. Rien ne va plus. L'arrivée, c'est dans 4 km. Fred.
4 km 213 exactement, le long de la Tamise. Les monuments historiques de la capitale anglaise se succèdent sur la gauche de la route, mais pas le temps d'apprécier et de profiter du paysage. À 4 km de l'arrivée, ce sont les Omega Pharma de Mark Cavendish qui est en train de regarder l'étape depuis son canapé. Bien sûr, il est sur son sofa, Cavendish, et il va peut-être regarder ses coéquipiers emmener Mark Renshaw, le poisson pilote habituellement de Mark Cavendish. Mark Renshaw qui s'était rendu célèbre par un coup de casque il y a quelques années dans le final d'une étape. Les Omega Pharma sont là, ainsi que les Katusha pour le sprinter norvégien Alexander Kristoff, vainqueur du dernier Milan-San Remo. Les Giant Shimano de Marcel Kittel viennent de prendre le relais à l'avant du peloton, concurrencés par, sur la gauche de la route, les Lotto Bellisol d'André Greipel. C'est un duel germano-allemand qui se dessine entre, pourquoi pas, Kittel et Greipel.
Et alors que Alberto Contador a régressé dans le peloton, on va atteindre les 3 derniers kilomètres. Donc s'il y a désormais un incident, ce ne sera pas décompté. Les équipes de sprinteurs qui sont donc à l'avant de la course désormais, avec évidemment l'équipe de Marcel Kittel. Est-ce que cette étape peut échapper à Kittel? Franchement, Cyril, est-ce qu'on peut y croire une seconde?
Ah, écoutez, maintenant rien ne va plus, refaites vos jeux. Donc pour un pronostic, ce sera quand même un petit peu difficile. Kittel, effectivement, reste sur le papier celui qui a le plus de chances de l'emporter. Mais les conditions sont très particulières et il faudra surtout ne pas se rater dans le dernier virage, pratiquement un 360 à 600 mètres de la ligne d'arrivée. Il ne faudra pas se rater. Si on se rate là, on est mort, y compris Kittel.
Un virage à 180 plus exactement, devant Buckingham Palace. On n'aura pas le temps de saluer la reine, évidemment, de la main gauche.
Alors qu'on voit Arnaud Démare, Fred, qui remonte bien dans la roue des Giants. Hein.
Des FDJ.fr également, ses équipiers qui l'emmènent. Effectivement, les Giants sont en première ligne à 2 km 200 de l'arrivée, relayés à l'instant par les Katusha de Kristoff. Apparemment, Alexander Kristoff, qui tout à l'heure a déchaussé, est encore idéalement placé, effectivement, en 5e, 6e position maintenant. Ça remonte de tous les côtés, à gauche avec les Lotto Bellisol, à droite avec les FDJ pour Arnaud Démare. Arnaud Démare très bien positionné
aussi, hein.
En 12e position, avant-dernier virage à droite, un 90 degrés avant d'aller chercher ce demi-tour en face de Buckingham Palace. On passe sous Big Ben à 1 km 700 de l'arrivée. Ce sont les Giant Shimano qui emmènent, et une chute est intervenue à 15e position environ. Apparemment, aucun grand sprinter n'est impliqué.
Oui, on ne sait pas exactement qui est tombé dans cette chute intervenue en 15e position environ. 1 km 500 de l'arrivée. Toujours les hommes de Marcel Kittel qui emmènent leur leader tranquillement. Arnaud Demar, le champion de France, est en 10-15e position environ. Tous les leaders sont en train de remonter tranquillement derrière le train de leur équipe. Enfin, tranquillement.
Et Cocard remonte également en tête avec Rezza.
Ouais. Cocard est là. Arnaud Demar est là. André Greipel, effectivement, et son maillot de champion d'Allemagne. Peter Sagan, le maillot vert. L'Australien Mark Renshaw. Et évidemment, Marcel Kittel, toujours emmené par 3 équipiers en position idéale à 1 km 200 de l'arrivée.
1 km 200 de l'arrivée. Les coureurs qui ne vont pas tarder à percevoir la flamme rouge dans quelques kilomètres maintenant. Voilà, flamme rouge du dernier kilomètre.
Intégral Tour, la flamme rouge.
On a même largement dépassé cette flamme rouge. Nous sommes à 800 mètres de l'arrivée. Le dernier grand virage, celui que redoutait tout à l'heure Cyril Guimard, va-t-il être pris sans encombre par les coureurs du peloton? Fred.
Toujours les Giant Shimano qui emmènent maintenant à 500 mètres de la ligne. Marcel Kittel, vainqueur de la première étape du Tour à Harrogate, vient de passer Buckingham Palace et bien calé dans la roue de deux équipiers encore. Idéalement lancé, il est en troisième position dans sa roue. On a Peter Sagan, le maillot vert. Arnaud Démare est dans la roue de Peter Sagan qui frotte avec Brian Cocard sur la droite de la route. Marc Renshaw est toujours emmené par un équipier d'Omega Pharma. On est à 400 mètres de la ligne et Marcel Kittel est toujours calé dans la roue d'un équipier. Marcel Kittel qui produit son effort maintenant avec dans sa roue Peter Sagan, le déménageur allemand Marcel Kittel qui lance plein champ, le champ ici sur le Mans. Il ne sera pas remonté. Quelle puissance de Marcel Kittel qui remporte sa deuxième étape sur ce Tour 2014, imbattable, et sixième succès sur la route du Tour pour Marcel Kittel en deux années. Kittel qui n'a jamais craint
troisième cocard, je crois. Troisième cocard
de Peter Sagan, effectivement. Un Kittel, deux Sagan, trois cocards. Sprint, on ne peut plus limpide. Le meilleur sprinteur du peloton s'appelle Marcel Kittel. Il était imbattable aujourd'hui.
Imbattable aujourd'hui, comme il l'avait déjà été avant-hier à l'arrivée à Harrogate. Marcel Kittel qui confirme qu'il est bien désormais le numéro 1 mondial, même si évidemment il n'a pas la concurrence de Mark Cavendish qui a chuté, vous le savez, lors de la première étape. En tous les cas, les Français, et notamment Brian Cocard, une nouvelle fois placé cette fois-ci sur le podium.
Je crois qu'il fait troisième.
Il me semble qu'il
fait troisième. On a Romain Feuillu dans le sprint également et Demare.
Un Marcel Kittel, deux Peter Sagan qui vient à nouveau prendre des gros points pour le classement du maillot vert, mais qui prouve qu'il est inférieur en vitesse pure, et c'est bien logique, au gabarit, au prototype sprinter Marcel Kittel. Kittel, premier Kittel, donc deuxième Sagan, troisième Cocard, et derrière on a un peu plus loin Démare. Démare qui n'a pas été à la
hauteur. Brian Cocard au micro de Pierre-Yves Leroux.
Ouais, il est très fort, il est très bien emmené. Je suis un peu déçu, j'étais dans sa roue à 600-700 mètres. Et je me suis fait piquer ma place par Sagan, et ensuite j'ai pas pu vraiment faire mon sprint, j'attendais l'ouverture. Voilà, il est très fort. Malgré tout, je pense que personne n'est imbattable. On va réessayer demain.
Ouais, justement, on peut s'attendre à un même scénario demain à Lille.
Ouais, je pense que ça sera une arrivée au sprint encore. L'équipe a bien travaillé pour moi encore aujourd'hui. On a fait le sprint intermédiaire. Et voilà, ça se passe bien pour nous. On joue le jeu à fond pour le maillot vert, même si... Je pense que Sagan va être très difficile à battre, mais au moins on joue le jeu, on a le mérite d'y aller à fond. Et puis bon, voilà, j'ai pas trop trouvé l'ouverture, mais peut-être que ça va s'ouvrir. On a le temps encore jusqu'au champ.
Qu'est-ce qui fait la différence, Brian? C'est d'avoir une équipe pour Marcel Kittel qui peut l'emmener vraiment que pour ça.
Ouais, bah c'est sûr qu'il a un super train. Faut que je regarde les images, mais je crois que j'ai pris un coup de vent à 500 mètres. Je me suis trouvé un peu dans le vent, et puis du coup après enfermé, obligé d'attendre l'ouverture. C'est sûr que quand on est déposé à 200 mètres, c'est plus facile. Voilà, il a une sacrée équipe, mais je pense que j'ai une équipe solide aussi avec Kevin qui m'a fait un super boulot encore aujourd'hui. Il s'est bien battu, je l'ai perdu à, je sais pas, peut-être 10 km de l'arrivée, et puis ensuite il est revenu, je l'ai vu revenir à 1 km là, et on était à côté du train des Giants, mais bon, il était tout seul, donc face à des grandes bêtes comme ça, c'est pas facile, mais on a le mérite, voilà, de se battre, et quatrième encore aujourd'hui, c'est... Je pourrais pas dire que c'est une satisfaction, mais c'est quand même, je suis quand même dans la grande cour, dans la cour des grands là, donc c'est pas si facile que ça.
Découvre des ambitions.
Ouais, Brian Cocard, toujours le sourire hein, à l'arrivée, toujours content pour l'instant, lui qui découvre le Tour de France.
Oui, moins frustré que lors de la première étape à Harrogate où il avait été un peu gêné par la chute de Cavendish avec Gerrans. Cocard effectivement quatrième derrière Kittel, le sprinter allemand qui s'impose devant Peter Sagan, le Slovaque, et Mark Renshaw, le sprinter australien, le poisson pilote de Cavendish à l'origine chez Omega Pharma, qui a pris la relève de son leader qui a abandonné. Mmh. Un Kittel, deux Sagan, trois Renshaw, quatre Coquart, cinq Christophe, Romain Feillu pour Bretagne Séché et neuvième du sprint.
Voilà, et Arnaud Démare, le champion de France, est beaucoup plus loin puisqu'il termine seulement 14e de cette étape. Une nouvelle fois, c'est donc le petit Coquart côté français qui se classe bien, hein, Cyril. C'est pas mal de terminer deux fois quatrième d'une étape du Tour de France pour sa première participation, on le rappelle. Mais le scénario était cousu de fil blanc pour Marcel Kittel, qui est le plus puissant, qui a la meilleure équipe et qui semble désormais imbattable. Il n'a même plus Cavendish comme concurrent. Donc on voit mal comment on va pouvoir battre ce diable de Kittel sur les routes du Tour cette année. Hein.
Oui, d'autant que lorsque on analyse son sprint, on se rend compte qu'il est quand même sorti très très loin de la ligne et qu'il y avait, bon c'est vrai, il n'y avait pas de vent, heureusement,
oui,
c'est
un petit
vent défavorable,
oui.
Il aurait du mal, mais c'est quand même aujourd'hui le seul sprinter capable de sortir aussi loin de la ligne d'arrivée et de ne permettre à personne, y compris Peter Sagan lui-même,
Cyril,
de même déboîter.
Je te coupe, Pierre-Yves Leroux avec l'un des héros du jour.
Oui, avec Jean-Marc Bidot qui a animé cette étape. Bon, ça fait quoi de rouler devant pendant tous ces kilomètres et arriver à Londres avec la déception, évidemment. Vous en doutiez un petit peu, vous sentiez que ça allait être compliqué?
Bah forcément, on savait que c'était une étape première de sprinter, mais bon, j'avais à cœur de faire une échappée en ce début de tour. Premier jour, on avait Benoît Jarier devant, hier Armido Fonseca, aujourd'hui c'est moi. Et bah, c'est notre rôle, hein, de faire les baroudeurs sur ce Tour de France, et bah, pour l'instant ça nous réussit. Et, bon, on espère que ça nous sourira plus tard avec une échappée qui ira au bout.
C'était le message dans cette équipe Bretagne Séchée, c'est être devant, se montrer.
Voilà, c'est ce que Manu Hubert nous demande, c'est d'aller de l'avant, d'être offensif. Et bah, comme je disais tout à l'heure, on espère qu'un jour ou l'autre, ça nous sourira en étant échappé. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à gagner, parce qu'à la pédale, face à Froome et Contador, on aura beaucoup de mal. Quoi.
En étant devant autant de temps avec votre camarade d'échappé, vous avez le temps quand même de profiter, de regarder un peu tout ce public.
Ouais, un petit peu, mais moi j'étais quand même concentré sur la course, mais c'est vrai que j'ai plus profité à la fin là quand j'ai fini en roue libre, le départ dans les Yorkshire, c'est vraiment un succès, et là à Londres encore, c'est vraiment incroyable quoi.
Et le programme là, c'est l'avion ce soir?
Ouais, voilà, tout à fait, les journées sont chargées, on n'a pas beaucoup de temps pour la récupération, mais tout le monde est logé à la même enseigne, donc c'est comme ça, c'est la course.
Merci beaucoup Jean-Marc Bidot, l'animateur de la journée, mais malheureusement pour aller chercher la victoire, il est sur la ligne en train de répondre à nos collègues journalistes.
Je suis bluffé par la faculté qu'ont les coureurs à s'exprimer de manière très intelligible, très lucide, très cohérente après une journée de vélo avec un final aussi intense, aussi rapide. Oui. Que ce soit Coquart ou que ce soit Bidot.
Et Brian Coquart même pas essoufflé quand il est descendu de son vélo, alors que Pierre-Yves lui a tendu le micro quoi, 2 minutes, 2-3 minutes après.
Et pourtant il souffre, et pourtant il donne le maximum. Luc, toi-même, après les étapes où tu te donnais à fond, c'était pas une nouvelle épreuve de parler immédiatement après la ligne d'arrivée?
Bah, non, parce que c'est notre rôle aussi de donner notre avis, et puis bon, ben il faut bien que les journalistes puissent travailler, donc
mais il y a les facultés
les facultés physiques, mais bon, non, on a, ben tu sais, quand tu fais le Tour de France, quand tu es sélectionné pour faire le Tour de France, ça veut dire que tu as une belle condition physique et normalement tu récupères bien, et quand tu arrives dans les sommets ou voir comme aujourd'hui avec Coquart qui fait quatrième, ça veut dire qu'il a une très belle condition physique, ça veut dire qu'il aussi il a une très bonne récupération, donc à la limite non, c'est pas un souci pour nous,
si c'est pas une contrainte de répondre à la presse tout de suite, c'est bien aussi d'être médiatisé, parce que c'est aussi dans le Tour de France qu'on est.
Voilà,
médiatisé.
Mais ça fait partie du travail d'un coureur cycliste professionnel, et puis les journalistes, ils ont besoin aussi de bosser aussi, de faire ce qu'il faut pour.
Regarde qui est là sur la gauche, juste en face de nous, qui est en train de discuter au pied du podium, qui est en train de discuter avec le champion du monde Rui Costa. On a The Special One à 5 mètres du camion RMC. Probablement est-il venu là parce qu'il a vu les bandeaux RMC, c'est le Special One, José Mourinho, l'entraîneur de Chelsea, qui est en train de parler en portugais, évidemment, avec Rui Costa. Rui Costa qui, lui aussi, comme toi dans tes grandes années, est capable apparemment de courir et de sourire sitôt la ligne franchie.
C'était l'air frais comme un gardon.
C'était définitivement the place to be, Buckingham Palace et The Mall aujourd'hui, en plein cœur de Londres. Le Gotha s'est réuni. on assiste à une scène complètement particulière. Rui Costa qui a les yeux grands ouverts, qui discute, presque timide en face de son célèbre compatriote. Et José Mourinho qui est venu assister au spectacle.
Exactement. The Special One, entraîneur de Chelsea, l'un des entraîneurs sans doute les plus mythiques au monde. Et là, tranquillement, dans la zone d'arrivée de cette étape du Tour de France, il répond, il discute avec son compatriote Rui Costa. On rappelle également la victoire de Marcel Kittel. Deuxième victoire en trois jours pour Marcel Kittel, le surpuissant sprinter allemand qui s'impose devant Peter Sagan, Marc Renshaw, le premier français, Brian Coquard est quatrième. Et ce soir, pour rentrer en France, eh bien, les maillots jaunes sera toujours sur les épaules
de Vincenzo Nibali.
L'italien. A tout de suite, l'Intégral Tour revient dans une petite minute. A tout de suite.
RMC Intégral Tour.